ouvrir aujourd'hui ce troisième temps du voyage à l'île Maurice avec Jean-Marie Le Clézio, un voyage où nous retrouverons Philippe Ray dans la maison de famille des Le Clézio, la maison Eureka, et où nous rencontrerons également Sarojini Asgharali. C'est la voix de mon père qui nous a réveillés à l'aube. Était-il venu dans la nuit? Je me souviens de son visage défait, de ses habits tachés de boue. Alors, il raconte comment, au plus fort de l'ouragan, il a sauté de sa voiture et il s'est couché dans un fossé au bord de la route. Plus tard, il y a une sorte de fièvre qui annonce la fin de notre bonheur. Nous vivons maintenant dans l'aile nord de la maison, dans les seules pièces épargnées par le cyclone. Du côté sud, la maison est à demi effondrée, ravagée par l'eau et par le vent. Le toit est crevé, la varangue n'existe plus. Ce que je ne pourrais pas oublier non plus, c'est l'arbre qui a transpercé le mur de la maison. La longue branche noire qui a traversé le volet de la fenêtre de la salle à manger et qui reste immobile comme l'ongle d'un animal fabuleux qui a frappé avec la puissance du tonnerre. Laure et moi, nous nous sommes aventurés par l'escalier disloqué jusqu'au grenier. Par les trous du toit, l'eau s'est déversée avec fureur, a tout dévasté. D'épines de livres et de journaux, il ne reste que quelques feuilles détrempées. Nous ne pouvons même plus marcher dans les combles parce que le plancher est crevé en plusieurs endroits. La charpente est disjointe. La faible brise qui vient de la mer chaque soir fait craquer toute la structure de la maison affaiblie. Une épave. C'est à cela que ressemble notre maison en vérité. À l'épave d'un navire naufragé. Nous parcourons les alentours pour mesurer l'étendue du désastre. Nous cherchons ce qui était encore là hier, les beaux arbres, les plantations de palmistes, les goyaviers, les manguiers, les massifs de rhododendrons, de bougainvilliers, d'hibiscus. Nous errons en vacillant, comme après une longue maladie. Partout, nous voyons la terre meurtrie, souillée, avec ses herbes couchées, ses branches brisées, et les arbres dont les racines sont renversées vers le ciel. Avec l'or, je vais jusqu'aux plantations du côté de Yémen et de Tamarin. Partout, les cannes vierges ont été fauchées comme par une gigantesque foule. Même la mer a changé. Du haut de l'étoile, je regarde les grandes nappes de boue qui s'étalent sur le lagon, à l'embouchure de la rivière Noire. Il n'y a même plus de village. Quand mon père passe près de moi, il met sa main sur ma nuque et dit « Viens, rentrons ». Cet instant est vraiment tragique. Il me semble alors que tout est fini pour toujours. Et mes yeux et ma gorge se remplissent de larmes. Je marche vite sur les traces de mon père, regardant sa silhouette haute, maigre, voûtée. C'est durant ces jours-là que tout va à sa fin, mais nous ne le savons pas encore très bien.
C'était une très grande famille parce qu'il y a beaucoup de chambres, enfin d'espace.
Là, c'était l'endroit magique, l'endroit magique des maisons coloniales, c'est le grenier. Les greniers étaient, mais ça regorgeait d'objets hétéroclites. Mais c'était des lieux extraordinaires pour les enfants, jouer comme ça dans sous les toits. Regardez là-bas les poutres. Et là, on peut voir le nombre de fenêtres. Parce qu'il y a, rien que dans cette pièce, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenêtres. C'est extraordinaire. Alors, on entassait des tas de choses, des tas de vieux objets, des tas de vieilles revues. Moi, j'adorais, dans la maison de mon grand-père, venir lire les revues, les vieilles revues, les collections d'illustrations, et toutes ces revues du 19e, du 20e. Bon, c'était un lieu de lecture. Et puis, toujours cette vue qu'on a... des fenêtres. Alors ici, ça c'est là, c'est une vue sur la partie sur la cascade, la rivière, une petite vallée. Là. Et tandis qu'ici, c'est la vue sur la montagne Ori. C'est donc la montagne. C'est une chaîne de montagnes qui sépare. Ce lieu de la capitale qui se trouve juste derrière, vous voyez, là, cette pointe, c'est la montagne Ori.
Qui est une. Elle est tout près.
Ah oui, je me souviens d'ascension de cette montagne. C'était Là, vous partez, vous traversez des bois avec une végétation très très riche. Beaucoup d'animaux, on se baigne dans les ruisseaux aussi, dans les montagnes, ruisseaux d'une eau très pure. Et c'est un paradis. Il y a la montagne, il y a la rivière.
C'est un paradis.
Il y a une végétation abondante, beaucoup d'animaux. Toutes ces maisons, il y avait des chiens, des chats, des tas d'animaux domestiques, des lapins, des tortues, des oiseaux. Et c'était un lieu extrêmement vivant. Alors j'aimerais beaucoup vous lire un passage du Chercheur d'or. Au début, il n'y a pas de vent. Tous les bruits sont suspendus, comme si les montagnes retenaient le souffle. C'est cela aussi qui fait battre mon cœur, ce silence qui vide le ciel, qui fige tout. D'un seul coup, le vent froid arrive sur moi, bousculant les feuillages. Je vois les vagues courir sur les champs de canne. Le vent tourbillonne, m'enveloppe avec des rafales qui m'obligent à m'accroupir sur le rocher pour ne pas être renversé. Du côté de la rivière noire, je vois la même chose, le grand rideau sombre qui galope vers moi. Recouvre la mer et la terre. Alors je comprends qu'il faut m'en aller vite, très vite. Ce n'est pas une simple pluie, c'est une tempête, un ouragan comme celui qui est passé en février, qui a duré 2 jours et 2 nuits. Mais aujourd'hui, il y a ce silence comme je n'en ai jamais entendu auparavant. C'est vraiment cela, ce silence. C'est ce silence qui va précéder le bruit et la fureur des éléments. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant dans le cyclone. On raconte, il y a un cyclone légendaire à Maurice, qui est le cyclone de 1892. Et on raconte comment il est arrivé en avril, ce qui est très inhabituel, les cyclones arrivent beaucoup plus tôt. Et on raconte comment tout le monde est allé travailler à Port-Louis. Et Port-Louis, la capitale, est entourée d'un cirque de montagne, juste derrière, donc dont fait partie cette montagne ici. Et tout le monde était en train de vaquer à ses affaires à Port-Louis. C'était donc, tout d'un coup, ils ont entendu une détonation. C'était le vent qui venait du nord-ouest, ça aussi c'est assez rare, et qui heurtait la montagne. Et là, c'était une détonation qui annonçait le cyclone. Et alors, ce qui a été terrible, c'est que cette montagne, cette chaîne de montagnes circulaires, a créé un tourbillon de vent qui a tout emporté sur son passage. Il y a eu des centaines de morts. Mon grand-père a eu, ce qui était un homme de loi, a tout perdu au cours de ce cyclone. C'est ça les cyclones. C'est tout d'un coup votre vie et vous repartez à zéro. Votre maison, votre bureau, parfois vos enfants sont morts. Et puis les familles modestes perdaient plusieurs des leurs au cours de cyclones. Et donc tout d'un coup il faut repartir à zéro. Mais c'est pas étonnant que Jean-Marie ait parlé de ça dans Chercheur d'or, parce que c'est un moment très important. Un moment d'angoisse, parce que le héros du Chercheur d'or est hors de sa maison. Le jeune garçon est hors de sa maison. Et l'angoisse de sa mère est bien racontée. Lorsqu'il arrive, la mère était absolument affolée, bien sûr. L'enfant qui devait avoir 12 ans, 13 ans, je pense, était parti. Il revient, sa mère est soulagée de le retrouver. C'est ça les cyclones, c'est très 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 angoissant.
Jean-Marie Le Clézot a vraiment retrouvé presque toutes les sensations aussi de ses ancêtres, hein. C'est étonnant.
Moi c'est ce qui m'a le plus impressionné dans Le Chercheur d'or, c'est le premier texte sur Maurice qu'il a écrit. Quand j'ai lu ce livre, je me suis tellement senti chez moi, et je lui ai tout de suite dit que j'étais très impressionné, je me souviens, je lui ai dit ça, par la justesse de la manière de vivre ces événements. L'esprit de ces familles mauriciennes est tellement bien retranscrit. J'étais impressionné par cela. Et il m'a expliqué au fond que, tout simplement, ses parents l'avaient bercé toutes ces histoires dans son enfance. Et je pense que c'est comme ça qu'il a, il est plus mauricien peut-être que beaucoup d'autres mauriciens, parce que il a grandi avec ça. Il, par exemple, il a une proximité avec le créole qui est stupéfiante. C'est pour ça qu'il a écrit ce petit livre sur les Sirandanes avec Gémia. Sirandanes, ça fait partie vraiment du patrimoine mauricien. Ce sont des petits proverbes. Oui. Ce sont des devinettes, au fond. Et moi, j'ai été bercé des Sirandanes.
Par exemple,
il y a les plus connus, par exemple, Piti bat maman. Piti bat maman, c'est le petit bat sa mère. Et c'est la cloche. Et par exemple, mon noir dans mon bonheur, mon rouge dans mon malheur. Je suis noir dans mon bonheur, je suis rouge dans mon malheur. Ce sont les écrevisses qui sont noires et rouges quand elles sont cuites. Voilà, c'est des petites devinettes comme ça qui sont, il y en a des dizaines. C'est un très beau recueil qui est toujours d'ailleurs disponible chez Segers et que j'aime beaucoup. Il y a un très beau texte dans ce livre, d'ailleurs, sur le créole, que Jean-Marie a écrit, où il considère que le créole est une langue. Et ça, ça m'a beaucoup touché quand il l'a écrit, parce que à l'époque, il y avait tout ce débat autour du créole, où les personnes considéraient que c'était une sorte de sous-produit du français. Et Jean-Marie dit justement, à ce propos, que le français est aussi un sous-produit du latin, donc à ce compte-là, toutes les langues dérivent d'autres langues qui les ont précédées, et je pense que le créole, quand on va vraiment aux profondeurs de l'île, on entend un créole assez élaboré, assez complexe, avec des mots qui n'appartiennent qu'à lui. Et ça, j'aime beaucoup.
C'est important de reconnaître.
Oui. Non. Ce que je trouve personnellement, c'est qu'à Maurice, Le créole qui est parlé dans les médias, c'est un peu francisé. Les gens sont très attachés au français. Toute la presse, vous avez dû le constater, est écrite en français. Et dans les familles créoles, on a envie de parler le français. On a envie de... Et c'est un petit peu dommage qu'on ne développe pas le créole davantage, même s'il est très parlé dans la vie quotidienne ici.
Du jus, si vous en voulez, non plus.
Et alors, tous les dimanches, vous vous réunissez?
Si, pas tous les dimanches, mais aujourd'hui, on fête la fête de...
Pour les vieilles personnes.
Les vieilles personnes, c'est le dernier mois de l'année. Mmh. Alors, on se réunit tous les vieilles, tous les troisième âge, voilà.
Malheureusement,
vous auriez dû passer plus tard, il y aura le gâteau. Le gâteau.
Ouais, on va couper le gâteau ensemble.
Et vous, comme si vous voulez attirer les gens ici, c'est que comment...
Voilà.
Voilà.
Alors, comment vous racontez l'île Maurice, vous?
Voilà, l'île Maurice est un petit pays. On est multiracial ici. On a des créoles, des musulmans, des hindous, des blancs. On a un peu de tout, mais on vit en harmonie. Et c'est très... Moi, je suis créole. On nous appelle créole.
Ce sont des hindous.
Oui.
Les Indus, voilà les Indus là.
Mais c'est une île vraiment jolie, qu'il fait bon de vivre, et je vous invite de venir. Les Mauriciens sont très accueillants.
Parfois la vie entière.
Oui,
il y a eu des choses difficiles aussi.
C'est pas tout. Mais il suffit de savoir vivre et d'accepter les autres. Voilà.
Si on sait comment accepter les autres, ben ça va. Vous croyez quelque chose avant de partir?
Non.
Très... 2h30, on vous attend pour le gâteau?
On revient.
Mais nous sommes tous des cuopipiens.
Cuopipiennes.
Oui, mais plus tard.
2h30. Qu'est-ce que c'est
C'est un moment presque sacré. Oui, la Rosigny, ici, avec cette maison qui est en pleine nature. On voit la montagne qui est juste derrière, le vent léger qui accompagne. Il y a quelque chose de sacré.
Oui, enfin, il y a le corps de God, la montagne qui est très... Pour Malcolm de Chazal, c'est quelque chose de... C'est, pour lui, c'est les Lémuriens qui ont sculpté la montagne. Donc bon, ben pour moi c'est mon petit coin que où je me sens en paix, où j'aime la brise qui vente, qui caresse mes cheveux.
Ouais, c'est particulier, hein. C'est toujours un mouvement du vent.
Oui, c'est très aéré, c'est fait pour ça. Enfin, c'est ce petit coin que j'ai rêvé tout le temps. Donc je suis contente que j'ai un petit coin.
Et vous êtes d'une famille indienne aussi.
Oui, mon papa était planteur, et ils sont venus de Hyderabad, et bon, je suis troisième génération.
Et dans la famille, on a gardé les traditions?
Ah oui. Papa était très philosophe. Papa nous a inculqué une culture très rigide, pas de superflu. C'est le croyant des Vedanta, hein, non? Donc c'est Dieu, c'est la nature, c'est pas être cloisonné, attaché à des choses. Donc, je suis un petit peu dans la famille. Les autres sœurs aussi elles sont très rituelles. Moi, je ne suis pas aussi rituelle. C'est plutôt spirituel. J'adore la nature. Je m'évade, par exemple, chaque fois que je vais en Inde. Et c'est au pied de Himalaya que je m'évade. Et je me sens vraiment...
Marcher.
Oui, je marche. Il y a le Gange. J'aime bien jouer dans l'eau du Gange. Et on contemple. C'est quelque chose de différent. C'est un peu difficile à expliquer. Mais je ne fais rien. Je m'assois en face du Gange. Et je regarde. Je peux ne pas manger. Un jour, il m'est arrivé. Je suis restée jusqu'à 5 heures. Et il y avait des érudits qui... Et discuter en sanskrit, donc moi je ne comprenais pas, mais je me sentais vraiment, j'étais protégée là. Bon, eux ils discutaient, et moi je contemplais le Gange qui traversait l'eau, je regardais, je suis restée là comme ça. Donc ce sont des choses comme ça que j'aime, le matin très tôt, j'aime le lever du soleil. Il y a quelque chose de un peu... Je ne sais pas, je me sens en paix. Je parle toujours seule, hein? Je suis toujours seule. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu embêtant, une femme seule. En Inde, seule, on peut, jusqu'à aujourd'hui, on peut aller un peu partout. C'est pas dangereux. À Maurice, on a peur. À Maurice, j'ai peur d'aller seul. Mais disons que là, j'ai eu un petit groupe d'amis. On part dans les montagnes. Chaque dimanche, c'est un peu randonnée, un peu sacré pour moi. C'est plutôt... Je quitte tout lorsque je suis stressée. Je cherche la montagne. On a été, par exemple, en face de nous, que vous voyez là, c'est montagne Trois Mamelles, qui se trouve dans le Chercheur d'eau. Et Jean-Marie Le Clézio parle de magenta, de Yémen, de Rivière Noire, de Maccabée. Et puis on voit la montagne du Morne qui est assise majestueusement dans l'eau turquoise du Morne. C'est inouï. C'est vraiment... On sent qu'on est ailleurs. On est ailleurs, on décroche. Donc, mais lui, il n'a pas été. Et lorsqu'il parle de ces endroits, c'est vraiment la magie.
On croit qu'il est allé
et on croit que c'est l'imaginaire. On ne croit pas que c'est réel. Lorsqu'on lit, c'est la magie de la littérature, hein, qui fait qu'il rend les endroits tellement différents, on croirait que c'est pas vrai.
Et pourtant, c'est, il a peut-être c'est vu aussi d'ici.
D'ici, oui. Mais peut-être un jour, on aura l'occasion de grimper la montagne. C'est pas trop difficile. On a pris 2 heures. Mais j'aime.
Vous êtes allé aussi à l'île Plate avec Jean-Marie.
Oui, oui, ça c'était, ce sont des moments très forts pour nous. Enfin, pour moi, c'était un petit peu un voyage initiatique, je ne sais pas. Et on a été un petit peu dans les endroits où se déroule la palissade, on a vu le phare. C'est exactement ça ce qu'on a lu, c'est on trouve. Et je me souviens qu'on a été une fois avec Jean-Marie Leclésio à Rodrigue, lance aux Anglais, et tout d'un coup, je vois Jean-Marie sous le tamarinier. Je dis, c'est le tamarinier. Et bon, moi, c'est si vous voulez, le chercheur d'or, j'étais un petit peu jeune lorsque j'ai lu. Donc, j'étais un petit peu, j'ai vu quelque chose qui m'a touchée dedans. C'est, disons, il y a aussi un nom qui m'avait frappé, c'est Sri. Sri, c'est, je ne sais pas si c'est Krishna. Et il y avait Uma. Donc, comme s'il y a quelque chose. Bon, il y a l'histoire du grand-père, il y a tout ça. Mais il y a une quête. Il y a une quête que ça m'a touchée. Comme si c'est la quête que nous tous, on cherche. On peut appeler Sri, on peut appeler Krishna. On est tous à la recherche. Et lorsque je vais dans les Himalayas, peut-être que je suis à la recherche de cette même quête. Et le chercheur d'or, il cherche. C'est pas l'or matériel.
Oui, et puis il y a aussi chez chacun cet arrière-pays de ses ancêtres. On est traversé aussi par l'histoire, comme vous, quand vous dites que vous êtes en Inde, paisible et tout. Et même si vous êtes né à Maurice et que vous êtes de la troisième génération, il y a encore ces traces qui restent.
Oui, c'est quelque chose qui me démange. Je ne sais pas, je cherche. Cette quête qui, on ne sait pas de quoi, mais ce désir, oui. Mais dans Chercheur d'eau, c'est ça qui m'a frappé. C'était en anglais, on appelle ça le longing. On cherche, on ne sait pas, c'est quelque chose qui est en soi, un truc qui brûle. Donc, ensuite, bon, après, lorsque j'ai lu la quarantaine, c'est là que j'ai découvert, j'ai cherché à lire plus Leclésio. C'est lorsque il y a en exergue, à côté, il y a une histoire de Ananta, et qui vient de l'Inde, et qui traverse la rivière, le Bénarès, c'est le Yamuna aussi, hein, Yamuna, Ganga qui se rencontre, et puis le fleuve qui continue, oublie. Donc il décrit quelque chose qui m'a frappé, mais la façon de décrire l'Ananta petite qui dansait, et il faisait avec la main la fleur de lotus. Donc ça, la façon de décrire le Leclésio, on a l'impression qu'il connaît la danse. Donc j'étais imprégnée dedans. J'ai eu l'impression que c'était moi. Et lorsqu'il décrit comment Krishna tient la flûte avec ses mains, ben, j'aime danser les danses de Krishna à Maurice. Vous savez, lorsqu'il y a les mariages, on a des danses. La veille des mariages, il y a le tambour, les femmes chantent. Donc toujours, lorsqu'il y a des chansons de Krishna, j'aime bien danser.
C'est particulier avec la main aussi.
Oui, oui, c'est ça. C'est les deux mains qui sont jointes. Mais la façon dont Jean-Marie Leclésio a décrit, et j'ai eu l'impression tout de suite que je dansais. Donc c'était moi. Donc on est vite. Et puis,
description.
Oui, donc, et on laisse glisser dans le livre et on lit, on continue, c'est comme si on était dedans. Et puis ce côté indien en moi, c'est, disons, j'aime la nature, c'est le respect dans les œuvres de Leclésio, c'est le respect pour la nature, l'eau. la lumière, l'air, le ciel, la terre. Donc ce sont des choses, on est fait avec ces éléments aussi, notre corps aussi. Donc anciennement, les Vedanta, c'est un peu ça. Ils vivaient dans la forêt, ils écrivaient. C'était contrairement à l'Occident qui érigeait en Grèce des murs, une séparation, et puis s'approprier des choses. Et tandis qu'en Inde, on ne pouvait pas s'approprier. Il fallait vivre en harmonie avec la nature. Donc, c'est ce côté de Jean-Marie Le Clézio qui m'a aussi touchée. Donc, je dis, ben, c'est quelqu'un, c'est un sage aussi. Hein? Donc, pour moi, c'est aussi un Indien. Bon, Indien, un Mauricien. C'est un citoyen du monde, comme tout le monde le dit.
Et vous, justement, Sarojini, vous êtes presque une exception. Enfin, c'est très rare, en tout cas, qu'une femme d'origine hindoue épouse un musulman aussi, parce que Issa Asghar Ali est aussi d'une famille musulmane. C'est très, très intéressant comme couple, très insolite.
Un peu marginal peut-être, mais ça se fait un peu rarement, mais ça se fait. Bon, on vit à Maurice. Hein, c'est mon papa qui m'a donné une éducation qui est très ouverte. Donc c'est l'ouverture qui fait que on peut surfer, ou on peut passer à travers d'une culture à l'autre et être à l'aise. Donc, c'est un peu ça.
Toujours, hein.
Oui.
Agréable, parce que c'est moite, hein.
Oui. Oui, il y a beaucoup d'humidité. À Maurice, c'est beaucoup d'humidité. Comme on est à côté de la forêt, de l'endroit où il y a beaucoup d'humidité. Mais moi, je ne pourrais pas vivre, disons, sans cette brise. C'est important pour moi. J'ai besoin de cette brise. Donc, comme vous voyez, c'est l'ouverture un peu partout. Donc, ça me permet de respirer, d'avoir mon temps.
J'aime beaucoup les retrouver pour sentir un peu comment ce pays évolue. C'est un lien que j'ai, qui est privilégié avec Maurice, parce qu'à travers eux, je peux ne pas rester sur une image un peu passée, un peu trop nostalgique de Maurice. Je suis vraiment dans la vie ici. J'ai ma manière de communiquer avec les lieux, les maisons, et je rêve, même si je fais abstraction un peu des changements qu'il y a eu, et puis on peut rêver dans ces lieux-là très facilement. Ce sont des lieux qui prêtent justement... Vous voyez, là, on est tout seul dans ce lieu. On est tout seul dans ce grenier, je pense.
On entend les oiseaux toujours.
Il y a des dizaines de variétés différentes qui chantent le matin et le soir, les oiseaux, comme ailleurs d'ailleurs, font leur prière, comme on dit à Maurice, la prière des oiseaux, un peu au crépuscule. Vous voyez, là, il y a un badamier, cet arbre que l'on voit à travers la fenêtre. La badame, c'est une sorte de petite noix, c'est une noix ou une amande, plutôt. C'est une amande. Et ça, c'est très caractéristique de Maurice, cet arbre-là, avec ses grandes feuilles très larges, très vertes. Eh bien, les badamiers sont un lieu de rassemblement d'oiseaux, le soir. Et les oiseaux chantent sur ces feuilles... très large, ces branches horizontales comme ça qui se déploient. Moi, chez moi, on avait un badamier comme ça où les oiseaux chantaient le soir. J'aimais beaucoup venir m'asseoir à côté. Simplement, voir des couleurs magnifiques. Les ciels ici ont des couleurs sublimes le soir. Les crépuscules sont de toute beauté.
Oui, il y a une lumière qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein, qui est
oui.
Un ciel parfois nuageux, comme ça, et une lumière incroyable.
Oui, qui change selon le lieu. Sur la côte, c'est une couleur un peu plus drue. Et dans les hauteurs de l'île, là, on a des teintes étonnantes, des mélanges de pourpre, d'orange, avec les nuages qui incarnent des dessins. J'ai toujours pensé que le très beau poème que tout le monde connaît de Baudelaire sur les nuages, je suis sûr que Baudelaire a eu cet éblouissement à Maurice sur les nuages, comme beaucoup d'éblouissements d'ailleurs, parce que c'est un pays de nuages, Maurice, c'est vraiment impressionnant.
C'est important d'ailleurs ce voyage à Maurice pour Baudelaire.
Oui, Baudelaire est venu à l'âge de 20 ans, je crois, à Maurice, poussé par sa mère et le général Opic, qui trouvaient qu'il était en train de perdre son temps à Paris. Il était un bohème qui finalement passait son temps dans les cafés à boire de l'absinthe. Et sa mère et son beau-père ne l'ont jamais compris, comme on le sait. Donc ils ont décidé de... En se disant, les voyages forment la jeunesse, donc ils l'ont expédié à bord d'un paquebot qui s'appelait le paquebot des mers du Sud, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui devait l'emmener en Inde. Et donc il a fait tout le voyage, mais il s'est arrêté à Maurice et a refusé d'aller plus loin. Il est resté un mois à Maurice. Il y a beaucoup de poèmes qu'on appelle les poèmes mascarins de Baudelaire, qui donc proviennent des Mascareignes. Mascareigne, c'est Maurice, La Réunion, Rodrigue, ce sont ces trois îles. Et il a ce beau poème à une malabarèse qui est magnifique. Mais ce qui est beau, c'est que je crois que l'éblouissement poétique s'est passé à Maurice. Je suis persuadé. Les Fleurs du Mal contiennent beaucoup de poèmes où on retrouve les tropiques, les fameuses correspondances baudelairiennes. Ça ne m'étonnerait pas que quelque chose se soit passé à Maurice. Qui est vraiment ouvert beaucoup de choses, beaucoup de champs poétiques chez lui. Il est resté un mois, puis ensuite il est rentré en France. Il y a un autre poète que j'aime énormément, qui est Paul-Jean Toulet. Paul-Jean Toulet, c'est ce poète du début 20e, qui est un personnage extrêmement attachant, dont la famille était mauricienne, qui est lui né à Pau. Et il y a pour moi une grande proximité entre Le Clésio et Paul-Jean Toulet, parce que tous les deux sont revenus à Maurice à l'âge adulte. Toulet, c'était un peu plus tôt. On dit d'ailleurs Toulette dans le Béarn, né à Maurice. On dit Paul-Jean Toulette. Et son journal est passionnant, qu'il a écrit quand il avait 18 ans. Il est arrivé par un paquebot. Et il a vécu, lui, dans le sud de Maurice, du côté de Souillac. Et là, c'est le jeune dandy qui n'a jamais cessé d'être, finalement, toute sa vie, qui était fasciné par les femmes. Il y a de très, très beaux, belles images de femmes. Il fumait aussi beaucoup le gandia. Le gandia, c'est une sorte de hache mauricien. Il jouait, il allait dans des... Il fréquentait toute une sorte de société demi-mondaine mauricienne, très, très bien décrite. Et aussi un éblouissement pour la nature. Ça, c'est magnifique. Il parlait de Maurice en disant « Douce plage où naquit mon âme ». Pour lui, son âme était née à Maurice. Et ça peut s'appliquer à Le Clésio aussi. Oui. Les deux poètes et écrivains, leur âme est vraiment née ici. Il y a ce vers, j'ai une très mauvaise mémoire pour les vers, mais certains, je m'en suis souvenu. Il y avait, parlant de la mer, c'était « Ô mer, toi que je sens frémir à travers la nuit creuse, comme le sein d'une amoureuse qui ne veut pas dormir. » C'est pas beau ? Et c'était ça, il y a la sensualité, il y a l'amour des femmes, l'amour de la nature. Paul-Jean Toulet, c'est ça. C'est un poète profondément mauricien. Après, il a écrit des choses différentes, mais vous savez, il y a des poètes comme ça, comme Paul-Jean Toulet, comme Malcolm de Chazal, qui est aussi un écrivain mauricien très important, autour desquels se forme une société, comme une société secrète. Par exemple, Malcolm de Chazal, c'est intéressant aussi de voir à quel point les correspondances baudelairiennes sont complètement intégrées dans la poésie de Chazal. Et c'est lié à Maurice aussi. Chazal, lui, comme vous savez, n'a jamais quitté Maurice quasiment. Il est allé faire des études en Louisiane. Il est rentré à Maurice à l'âge de 25 ans. Il n'est plus jamais reparti. Et Chazal était, lui, très influencé par la religion swedenborgienne, comme sa famille. C'est une histoire très étonnante. Son ancêtre Chazal, au XIXe siècle, un jour a vu arriver une malle contenant des livres. Il a ouvert cette malle et c'était des ouvrages de Swedenborg. Alors Swedenborg, c'est ce mystique suédois du XVIIIe siècle qui a créé une sorte de secte chrétienne qui était au fond basée sur une sorte de voyance qu'il avait eue. Il avait eu ces visions du royaume de Dieu qui s'ouvrait devant lui. C'est très étonnant, les textes de Swedenborg. Ça pourrait être le texte d'un poète surréaliste. Et Swedenborg a donc créé toute une théologie fondée sur la correspondance, très panthéiste finalement. Dieu est dans tout, donc il suffit de le voir. Et donc il a écrit beaucoup de livres. Et cette malle est arrivée, donc, ce monsieur de Chazal, au XIXe siècle, l'a ouverte. Il a été absolument frappé. Ça a été une conversion immédiate par la lecture, à des milliers de kilomètres de distance. Et ce qui est assez intéressant dans l'anecdote, c'est que cette malle ne lui était pas destinée. Cette malle était destinée à un monsieur Martin, qui habitait l'Australie. Et je ne sais pas pourquoi, une erreur d'aiguillonnage. À partir d'une erreur, cette malle de littérature swedenborgienne est arrivée à Maurice. Et monsieur de Chazal l'a lu. Et il a été tellement ébloui qu'il a forcé toute sa famille à se convertir au swedenborgisme. Et c'est comme ça que 4 ou 5 générations après, Malcolm de Chazal est devenu swedenborgien. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, il y a une petite église à Kurpip où le public swedenborgien, converti par M. Chazal et d'autres après, il y a encore des adeptes de la religion swedenborgienne. Voilà.
C'est presque une façon poétique aussi de voir le monde, finalement,
Complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut comprendre la poésie de Chazal que si on s'intéresse au swedenborgisme. Il raconte, par exemple, le point de départ de tout, pour lui, a été une visite au jardin botanique de Kurpip. Et il s'est penché vers une azalée, de très belles azalées à Maurice. Et il dit, selon ses propres termes, qu'en regardant cette fleur, il s'est aperçu que la fleur le regardait. Et ça a été une sorte de révolution copernicienne pour lui. Il s'est rendu compte que la nature aussi pouvait le regarder, pouvait l'admirer. Et Chazal, à partir de là, a construit tout un système poétique, toute une vision poétique. Quand il dit « les vallées sont les soutiens-gorges du vent », c'est étonnant. Il y a des centaines de pensées comme ça. Et ce sont ces pensées-là qui ont ébloui Pollan en 48, qui a publié Sens plastique. Je pense que c'est un des grands, grands textes poétiques du XXe siècle. Donc voilà.
C'est des personnages qui sont présents encore ici. Hein. Vous avez parlé aussi de Jean Fanchette au prix Jean Fanchette, avec une intimité aussi avec lui. Vous l'avez connu et c'est aussi un éblouissement qu'il a eu aussi pour Maurice.
Oui, Jean Fanchette, c'est la poésie de l'exil. Et c'est peut-être pour ça que je me sens très proche de lui, puisque moi je vis loin de ce pays. Et Jean était un jeune homme.
Il est né ici.
Il a vécu dans une maison avec 7 frères et sœurs. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Leur père était instituteur. Et j'ai pu lire récemment le journal que Jean a tenu l'année de ses 18 ans.
l'année où il quitte Maurice pour partir à Paris. Et c'est un journal très beau parce qu'on voit que c'est un jeune homme assoiffé de culture. À l'époque, il passait son temps au cinéma. Il y avait une vie culturelle importante à Maurice, dans les 51. Et puis là aussi, un amour de la nature, c'était un sensuel, en tous les sens du terme d'ailleurs. Et l'éblouissement, il parle beaucoup de ses conquêtes amoureuses, avec une grande innocence aussi. Puis il est parti et toute sa poésie qu'il a écrite à Paris était pleine de réminiscences de Maurice. Il avait une grande... il était hanté par ce pays. Il avait cette phrase, je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs. Il avait cette grande blessure que tout le monde a d'ailleurs, qui est peut-être aussi tout simplement la blessure de l'enfance. Il a beaucoup écrit sur l'enfance perdue. Et c'est pour ça peut-être qu'il aimait beaucoup rencontrer des jeunes qui arrivaient comme moi. J'arrivais de Maurice et puis j'allais chez lui et puis il me préparait des plats mauriciens. Il avait de très longs doigts, très fins, et puis les épices dansaient au bout de ses doigts, comme ça, dans sa cuisine, c'était beau. Et on parlait des après-midi entiers. On évoquait Maurice, on évoquait la littérature, on parlait de beaucoup de choses. Non, c'était un être très beau, très, très pur.
Son Excellence, le président du jury 2008, Monsieur Jean-Marie Lequesio et Madame, Monsieur Philippe Rey, Monsieur Jean-Claude Lestrac, membre du jury.
Flashback. Dans la grande salle de la mairie de Rosine, Jean-Marie Lequesio présidait le prix Jean Fanchette, un prix créé par Issa Asgharali. Et tout son discours d'ouverture de la séance était ponctué de poèmes de Jean Fanchette que lisait Gémia Lequesio. Hier la mer était le dernier poème. Hier la mer, calme au loin la mer dénouée, balance le ciel des exils. L'écume au brisant s'est vouée, j'ai renié l'âme des îles. Roi, j'ai perdu mes caravelles, trahi l'enfance aux cheveux verts. Je remonte avec les civelles les courants certains de la mer. Roi, j'ai vendu mon héritage doux amer pour d'autres royaumes. Et de mon seul destin, l'otage, j'étreins le vide de mes paumes. Calme au loin, la mer dénouée balance le ciel des exils. L'écume au brisant s'est vouée. Quel ciel roux brûle mes cils.
Brûle mes cils.
Voilà donc, je voulais vous donner faire cette lecture assez brève, malheureusement, puisque le temps qui nous est imparti est très juste, des poèmes de l'île Équinoxe. Lisez ces poèmes, ils sont d'actualité. Ce que Jean Fanchette dit de l'Afrique est toujours vrai aujourd'hui. Ce qu'il dit de cette inquiétude sur l'identité, beaucoup d'entre nous le ressentent, parce que aujourd'hui l'identité reste provisoire. L'identité, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement appartenir à une nation, c'est savoir qui nous sommes, quelles sont nos constructions, sur quoi sommes-nous faits, dans quelle mesure allons-nous accepter les autres, qu'est-ce que nous allons recevoir d'eux. La parole de Jean Fanchette, malheureusement, a été interrompue, comme celle de Rimbaud, trop tôt. C'est une parole qui n'est pas allée jusqu'au bout, elle est restée en suspens. Et c'est peut-être ça qui est le plus émouvant dans la lecture de ces poèmes, c'est qu'il y a justement cette interrogation sur la poésie elle-même, la poésie qui ne s'achève pas, qui est un mouvement qui ne connaît pas une fin, qui ne connaît pas un point final. C'est une parole qui reste ouverte. Les interrogations que Jean Fanchette nous livre sur lui-même, sur le monde, cette évocation très sensuelle, très sensorielle du monde, et ce refus de participer aux grandes idées, aux grands débats, ce refus de la compromission avec les grands thèmes pseudo-humanistes, surtout qui étaient en cours à l'époque, son refus de prendre part aux faux débats est au fond l'affirmation de sa véritable identité, de sa véritable foi. Il croyait, je crois, très fermement dans l'humanité. C'était un grand humaniste, mais qui refusait d'utiliser les mots courants, les mots communs de l'humanisme. Il ne donnait pas un message facile à comprendre, et c'est pourquoi cette poésie aujourd'hui, elle reste ouverte et elle reste vraie, dans chacun de ses mots, dans chacune de ses paroles, dans toute la richesse de son rythme. Et ce n'est pas indifférent que dans le monde moderne, ce soit cette voix très ancienne qui vient de Maurice, qui charrie toute cette culture complexe qu'est la culture mauricienne, ce n'est pas indifférent que ce soit cette voix-là que nous puissions entendre aujourd'hui et qui nous donne foi dans la poésie. Voilà, je voulais vous livrer ces réflexions très brèves et je vous remercie de votre attention.
Cette cérémonie.
Nous sommes à l'église de John Kennedy de Vacua, et puisque on vit cette belle île qui est un paradis qui nous a donné par le Seigneur, ben, de temps à autre on bouge, on vient à la plage et on célèbre le culte du dimanche ici aujourd'hui. On chante pour la louange de Dieu, on fait la Sainte Cène, donc l'alliance que nous célébrons avec le Seigneur, et aussi en même temps on partage un repas ensemble et on passe l'amour de Dieu à tous ceux qui veulent venir se joindre à nous, et donc c'est une merveilleuse façon de passer le dimanche, et on vous a fait
passer
la table pour les morceaux de bâton. Que Dieu vous bénisse.
Tout le monde, vous avez eu
Il va y avoir de l'orage, non?
Oui, ça se couvre. Oui.
Un salon de musique presque, avec des photos anciennes qui racontent Maurice Philippe Rey, histoire aussi, des traces.
Oui, ce sont des photos très intéressantes parce qu'elles datent du début du siècle. Voilà, ça c'est le tribunal de Port-Louis. Moi j'ai visité plusieurs tribunaux avec mon père qui était un avocat. Et il allait plaider dans des endroits extraordinaires et parfois il nous emmenait. Et je pense que si on veut connaître Maurice, il faut aller dans les tribunaux. Il y a des tas de problèmes ici qui sont dus à probablement la promiscuité. Il y a des choses très fortes. Très tragique,
aussi,
beaucoup d'inceste, beaucoup de meurtres, beaucoup de viols, et beaucoup d'assassinats terribles. Régulièrement, on en parle dans les journaux, parce qu'il y a 1 million de personnes à Maurice, donc il y a une proximité, promiscuité très forte dans les familles. Et il y a de grandes tragédies dans ce pays, oui, de grandes tragédies interraciales aussi. Parce que le mariage mixte, maintenant, ça va mieux. Maurice est un peu ouvert. Mais il y a quelques années, il y avait des unions qui n'étaient pas tolérées. Il y a eu des suicides à la Roméo et Juliette à Maurice. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Et donc c'est une île qui porte aussi sa part de tragédie. Il y a une nature qui est très belle, mais il y a aussi une part de ce pays qui est rude, qui est rude. Il y a beaucoup de gens qui souffrent ici, pour des raisons différentes. Il y a de la pauvreté, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, un grand cloisonnement entre les communautés, mais il y a aussi un très grand cloisonnement au sein des familles même. Et ça, c'est dû à, je pense, aux générations qui changent par rapport aux générations précédentes, qui changent très vite. Vous avez des générations de gens modestes, et puis tout d'un coup qui retrouvent leurs enfants devenus médecins. On retrouve ce même phénomène en France, bien sûr. Mais ici, c'est très, très difficile à vivre. Parce que ici, on appartient peut-être plus fortement encore à sa famille, à son pays.
Donc c'est vraiment lié la beauté et en même temps les drames qui cheminent à côté dans cette île.
Oui, cette maison n'a pas été épargnée. Il y a eu beaucoup de drames, comme dans toutes les maisons. Il y a des tragédies. J'ai lu récemment le journal que tenait mon arrière-grand-père lorsque son fils de 9 ans mourait de la fièvre typhoïde. Cet arrière-grand-père avait 17 enfants. Et l'un d'entre eux, et cet homme qui était très dur en affaires, le fameux Sire Henri, j'ai découvert un autre personnage. Il notait ses impressions au fur et à mesure du progrès de la maladie. Et il tenait ce journal de la mort de son enfant de 9 ans. Ça m'a bouleversé. Donc voilà, il y avait des maladies, il y avait des morts, il y avait les brouilles familiales, bien sûr, parce que c'est ce que Jean-Marie de Clésio a évoqué dans Voyage à Rodrigue. Donc sa famille est partie de cette maison, puisque son grand-père et son arrière-grand-père ont vendu leur part de la société qui possédait cette maison, et donc ils ont dû partir, et c'était une perte. C'était une perte dont toute cette famille ne s'est jamais remise. Donc j'imagine que le lieu où nous nous trouvons, là, sous cette varangue, qui est paisible aujourd'hui, a dû être le théâtre d'une très très grave, d'un très grave désarroi de ces gens qui sont partis avec leurs meubles, leurs affaires, et les s'installer dans une petite maison à Rosille, un peu plus loin, et qui n'avait rien à voir avec le paradis que pouvait représenter Eureka sur Terre. Donc il y a eu cela. J'ai une grand-tante aussi qui a été chassée, ben là exactement sur les mêmes lieux où nous nous trouvons, qui au début du siècle avait une liaison adultérine, et toute la famille s'est réunie là pour la chasser de la maison. Et son mari l'aimait beaucoup et il ne souhaitait pas qu'elle parte. Mais là encore, le patriarche, le fameux Henri, avait imposé cela à sa famille, le départ de cette femme. On se croirait dans un roman de Balzac, n'est-ce pas, où c'est une sorte de Madame Bovary et tropicale. Mais alors, elle était désolée de partir, et quand elle est partie au bout de cette allée, là-bas, son mari a couru derrière la voiture qui l'emmenait, en disant « Arrêtez, arrêtez !» Et elle aimait beaucoup manger un chocolat. Et il lui a tendu à travers la portière le chocolat en lui disant « Voilà le chocolat que tu aimes beaucoup. » C'est cette phrase « Attends, attends, tu as oublié ton cacao Bensdorf. » Ça s'est resté en proverbe dans la famille, ce mari qui court comme ça pour faire plaisir à sa femme, un ultime plaisir à sa femme qu'il a trompé mais qu'il aime encore passionnément. C'est beau. Alors après, l'histoire s'est bien terminée puisqu'ils se sont remis ensemble. Enfin. Mais ils ont dû partir. Ils se sont exilés à l'étranger. C'était impossible qu'ils restent. C'est romanesque, voilà. Cette maison est romanesque. Ça. Il y a énormément d'histoires comme ça. Je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines. Ce sont des histoires.
histoire, comme toutes les familles. Comme il y avait 17 enfants, évidemment, il y avait, ça multipliait par autant les chances de trouver des histoires intéressantes. Oui.
Aller dans le jardin, comme une forêt. Des allées de palmiers.
Oui, ce sont des palmiers plus petits et plus légers. Et c'est le paradis, c'est le paradis d'Eureka. Alors cette petite maison, elle a une histoire, c'est une très belle histoire. Mon arrière-grand-père, un jour, est allé visiter une communauté de religieuses qui habitait à côté. Et il a appris que ce petit couvent, à flanc de montagne à côté, allait fermer. Et donc, et que les religieuses, qui étaient pour la plupart françaises, allaient rentrer à Paris. Bon, et il leur a dit au revoir, et le lendemain, le jour du départ, il voit arriver chez lui une petite carriole des chevaux, avec deux mâles, et assise à l'arrière sur les mâles, une des religieuses, la sœur Saint-Georges. Et la sœur Saint-Georges est arrivée et elle a dit: Monsieur Le Clézio, je ne souhaite pas rentrer en France. J'aime trop votre famille. Je suis trop attachée à vous. Je ne peux pas repartir en France. Gardez-moi auprès de vous. Et donc, mon arrière-grand-père m'a dit: très bien, sœur Saint-Georges, je vous garde. Et il a fait construire cette petite maison qui contient deux ou trois pièces. Et sœur Saint-Georges a passé 30 ans, 40 ans là. Ça, c'est la générosité mauricienne. C'est-à-dire qu'on accueille des gens, on construit des maisons pour eux. Quand on les aime beaucoup, on est capable de faire beaucoup de choses.
Qu'est-ce que c'est cet oiseau ?
Ça, c'est un martin. Un martin, c'est un oiseau avec un bec jaune. Et quand on lui coupe le petit ligament qui retient sa langue, on peut lui apprendre à parler, comme un petit perroquet, tout petit perroquet. C'est un autre. C'est un oiseau qui dévore les papayes. Le papaye qui est un fruit très, très savoureux à Maurice. Et le martin est son ennemi, son prédateur.
Merci à Jean-Marie Le Clézio, à Jamia Le Clézio, Philippe Ray, Sarah Jimmy, Asghar Ali. Jean-Marie Le Clézio, La Quarantaine et Le Chercheur d'Or sont publiés en folio Gallimard et Raga approche du continent invisible. C'est au seuil. Quelques lectures d'Issa Asghar Ali, L'Interculturel ou la Guerre et L'île Maurice des Cultures aux éditions Le Printemps. De Jean-Claude de Lestrac, Mauricien enfant de mille races et Mauricien enfant de mille combats aux éditions Caractère. De Karl de Souza, La maison qui marchait vers le large, c'est au serpent à plumes. Les jours Kaya et ceux qu'on jette à la mer, c'est aux éditions de l'Olivier. Et enfin de Natacha Apana en folio, Les rochers de poudre d'or. Merci à Air France, à Jacques Maillard, ambassadeur de France à Maurice, Carnet Nomade, Daphné Abgral à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellous, rendez-vous dimanche prochain à 14h. Très bon dimanche à tous.